d'être à 17h au studio Kalangou. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal au micro Nafissa Adamou Sirfo. L'interdiction des importations vers le Niger à partir du Bénin est levée par les autorités aéroportières du port autonome de Cotonou. Le président du syndicat des commerçants importateurs-exportateurs du Niger se prononce dans un instant. Dans ce journal, des commerçants de Tessawa victimes de vols nocturnes ces derniers jours donnent les raisons pour lesquelles elles ne portent pas plainte au commissariat. Le magazine Environnement de ce jeudi nous amène dans le département de Gauteuil où la coupe abusive des arbres entraîne une diminution des ressources naturelles selon les responsables de l'environnement. Les autorités aéroportières du port autonome de Cotonou, à travers une lettre en date du 27 décembre 2023, ont décidé de la levée de la suspension des importations des marchandises à destination du Niger. Pour El Hadj Damaradi, président du syndicat des commerçants importateurs-exportateurs du Niger, la situation est devenue insoutenable pour le Bénin plus pour le Niger. Il est joint par Maman Ada.
C'était une mesure qui était contre-productive d'abord pour le Bénin lui-même. Parce que tout le monde sait que les rentrées de devises donc du Bénin reposent sur son port. Et que nous sommes, nous les Nigériens, les principaux utilisateurs de ce port-là. Donc nous sommes les pourvoyeurs en réalité au niveau du trésor béninois. Donc nous savons que le fait de nous mettre cet embargo-là et le fait de dire que nos marchandises ne vont plus passer par leur port, on sait que ça ne va pas marcher. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir que à travers l'ONU, au niveau de la CEDEAO, les choses sont en train d'aller pour le Niger, on est en train de lever les sanctions progressivement, puisque la CEDEAO reconnaît à partir de maintenant donc l'autorité de notre transition. Il est évident que Cotonou doit se rendre compte, surtout que les choses sont en train de lui échapper. Donc ça veut dire que nous sommes progressivement en train d'abandonner le corridor béninois. Vous savez, Talon est en train de venir à petits pas. Donc la chose qu'on lui demande de faire d'abord, ouvrir d'abord les frontières. À ce moment-là, on peut parler avec lui. Mais tant que les frontières ne sont pas ouvertes, bon, mais tu sais qu'il est en train de faire, ce n'est qu'un coup d'épée dans l'eau.
Il vous souviendra, il y a de cela quelques jours, vous avez entendu le commissaire adjoint de Tessawa qui parlait des vols de nuit pendant cette période de froid. Il a aussi relevé que les victimes ne portaient pas plainte. Notre correspondant a approché certaines victimes pour savoir un peu plus. Écoutons-les au micro de Ilia Momouni.
Les raisons pour lesquelles les gens ne portent pas plainte en cas de vol, c'est qu'ils ont peur des voleurs même. Si vous amenez un voleur à la justice, on vous demande si vous l'avez frappé ou quelque chose du mal. Si vous l'avez fait, on dit que vous vous êtes fait justice. Voilà ce que nous n'arrivons pas à comprendre.
Une fois, les voleurs sont partis avec notre vache. Quand nous sommes partis pour porter plainte, ils ont répondu sèchement de s'en remettre au Gambie. Or, c'est dans cette ville que notre vache a disparu.
La campagne de distribution des médicaments aux enfants contre les vers intestinaux a pris fin hier à Koni. Cette campagne a pris fin après 5 jours. Le communicateur du district sanitaire de Birnin Koni, Ousmane Abdoul Moumouni, donne des détails au micro de Asman Arzika.
Ce que nous voulons, c'est de savoir que 99 des enfants ont reçu ces médicaments de prévention contre la cataracte et les médicaments albendazole. Dieu merci, nous avons atteint notre objectif avec 95% des enfants atteints. L'albendazole est un médicament qui tue les vers intestinaux. Nous savons que les enfants de moins de 5 ans souffrent beaucoup de maladies causées par ces vers. C'est pourquoi, des fois, ils sont atteints de malnutrition. Alors, Dieu merci, cette campagne de prévention a été possible avec la coopération des maires. Sur les lieux de consultation, les distributions de la vitamine A et d'albendazole se poursuivent.
Pendant ce temps, le département de Gaya a réceptionné une ambulance offerte par le gouvernement du Niger. Cette ambulance à médicaliser contribuera à la réduction des décès maternels dans le département et à résoudre les difficultés d'évacuation des malades vers les centres de santé urbains. On écoute certains citoyens de Gaya qui se félicitent au micro de Fadel Alou.
L'ambulance, elle vient renforcer notre système de référence contre référence. L'un des défis majeurs, c'est le décès maternel. Et la première cause, ou l'une des causes des décès maternels, c'est lié au retard. Des fois, la femme est en travail, il n'y a pas d'ambulance. Donc ça ne peut que vraiment renforcer le système de référence contre référence.
Nous sommes vraiment reconnaissants pour cette ambulance qui nous sauvera. Car même si tu n'as rien, au moment où tu commences le travail, on peut t'évacuer avec cette ambulance. Aussi, la population de Gaya est vraiment reconnaissante.
Nous remercions les autorités vraiment pour cet effort et nous pensons que cela va continuer pour améliorer la santé de la population. Car si on aspire au développement de toute nation, la santé doit être une priorité.
Parlons de la santé animale à présent. Pendant cette saison froide au Niger, les animaux sont souvent confrontés à des difficultés en raison des maladies qui les affligent. À Difa, par exemple, les animaux ne sont pas épargnés. Plusieurs maladies sont enregistrées en ce moment, comme l'explique Bouré Mahalidou, directeur régional de l'élevage de Difa. Il est interrogé par Guidi Abdrahman.
La peste des petits ruminants est une maladie qui tue plus nos bétails. Une fois l'animal malade, c'est le rhume et la diarrhée. La vaccination des bétails est la seule prévention. Et pour cela, nous demandons à la population d'amener les animaux pour cette campagne de vaccination. Elle concerne également les grands ruminants, les bovins et les camélins. À part ça, il y a aussi la rage. Et Dieu merci, il y a un mois de cela, ici même à Difa, nous avons vacciné tous les chiens. Nous lançons un appel à la population d'être vigilante et de signaler tout animal malade. Nous sommes des vétérinaires au service de la population pour la santé animale.
Dans le cadre du programme de résilience communautaire, la Croix-Rouge nigérienne, en collaboration avec la direction départementale de l'agriculture de Dogondouchi, a organisé hier une journée porte ouverte de clôture de champs écolo-agro-pastoral dans 10 villages de Kéché. L'objectif est de montrer aux cultivateurs les différentes techniques de culture sur des terrains lessivés et aussi l'importance du fumier traditionnel, le compost. Tabaki Namata, une femme agricultrice de Garingéji, explique au micro de Ali Obawa.
Lorsque nous avons été formés sur ces techniques, nous avons mis les semences avec des engrais et des composts modernes appelés takinzamani. Sur les terrains où il n'y avait pas d'herbe, nous avons vu que les graines poussent. Quand nous étions allés dans la zone agricole, on nous a appris qu'il fallait enlever tout et laisser seulement 3 jeunes pousses de mille par trou. Imagine un endroit qui n'a même pas été désherbé et qu'aujourd'hui on arrive à y cultiver du mille, ce n'est pas possible. Ce sont les semences qui nous ont été données et si nous continuons à les utiliser, nous serions heureux à l'avenir.
Les pays de l'Alliance du Sahel, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ont récemment émis l'idée de créer une banque d'investissement et une monnaie commune à la place du franc CFA dans le cadre de leur processus de souveraineté et d'intégration. L'idée est charmante, mais elle comporte aussi le risque de l'effondrement de l'économie de ces pays, a indiqué l'économiste Adamou Louché Ibrahim. Il est joint par Tarnad Foudey Ahmed.
L'idée de créer une monnaie commune au sein de l'Alliance des États du Sahel peut paraître certes séduisante dans des pays notamment en quête de souveraineté puisque la monnaie comporte effectivement cette dimension. Toutefois, il convient aussi de rappeler qu'une monnaie reflète la prospérité, la puissance et le dynamisme de la zone où elle est émise et où elle est censée circuler. Or, la coexistence de ces trois pays présente de nombreuses incertitudes dont la dissipation risque de prendre du temps et en raison des nombreuses fragilités qui les caractérisent, comme la question de la mauvaise gouvernance politique et économique ou la structure de leurs échanges qui portent essentiellement sur des biens et services à faible valeur ajoutée et qu'il faut corriger impérativement pour éviter le risque de l'effondrement de leur économie.
Du sport dans ce journal, durant les compétitions du sabre national, on fait recours très fréquemment à une commission, celle contre le dopage. À cette 44e édition du sabre national, aucun cas n'a encore été décelé selon Dr Issoufou Alio, secrétaire permanent de l'organisation régionale anti-dopage. Seulement, il continue la sensibilisation auprès des lutteurs. On l'écoute au micro de notre envoyé spécial Salamat Kadri.
La sensibilisation, ça sert non seulement à informer, n'est-ce pas, les sportifs, les encadreurs et le grand public sur les méfaits du dopage sur la santé du sportif et sa carrière. C'est très important. J'ai eu une séance de conférence publique avec les jeunes lutteurs des 8 régions du Niger. Donc ça a permis, n'est-ce pas, d'édifier les enfants sur les méfaits du dopage dans le sport. Parce que il faudrait le reconnaître que, au-delà, n'est-ce pas, du gain que les gens cherchent, il faut aussi préserver sa santé. Parce que le dopage, c'est une question de santé publique. Tant que vous prenez des substances, n'est-ce pas, dopantes pour améliorer votre performance, on parle, n'est-ce pas, de dopage, et que ces substances-là sont utilisées non pas pour se traiter contre une maladie, mais pour modifier sa performance sportive, ça veut dire qu'il y a problème. Parce que les produits médicaux sont faits pour traiter des maladies et que ceux qui les prennent aujourd'hui, nos sportifs, c'est des sujets en bonne santé.
Le magazine de ce journal dans le département de Gotei, il est constaté une diminution des ressources naturelles par les responsables de l'environnement. Cette situation est accentuée par la coupe abusive des arbres selon les spécialistes. Pour faire face à cette préoccupation, les responsables de l'environnement attirent l'attention et sensibilisent la population sur l'importance de protéger ces ressources. Commandant Ali Kérou, directeur départemental de l'environnement de Gotei, explique au micro de Omar Hama.
On peut dire qu'il y a une tendance générale à la baisse de tout ce qui est ressources naturelles. On entend par ressources naturelles tout ce qui est végétation, et tout ce qui est les ressources édaphiques, c'est-à-dire les sols qui sont en dégradation, tout ce qui est notre cadre de vie qui est vraiment pollué, des pollutions diverses, que ce soit pollution de l'air, que ce soit par les déchets plastiques ou les déchets solides ménagers.
Peut-on parler de la coupe abusive des arbres ici comme ça se passe ailleurs dans le pays?
C'est vraiment une préoccupation au niveau du département de Gotei. On n'a pas besoin, en tout cas, d'être spécialiste. C'est un phénomène qui apparaît. Cette situation, elle est très récente parce que les agents chargés de la sensibilisation et de la police forestière sont de moins en moins présents sur le terrain. Compte tenu de la situation d'insécurité, il y a des zones, entre guillemets, qu'on appelle des zones rouges, où pratiquement, au niveau des postes forestiers, les agents qui sont basés sont maintenant dans les villes. Et même autour des villes, le phénomène apparaît parce que ceux qui exploitent de manière abusive ces essences forestières-là estiment que avec l'insécurité, les gens ne peuvent pas sortir, surtout de nuit, même si c'est derrière, juste dans les environs immédiats des villes. Et c'est nuitamment que les gens abattent. Et parfois, sans raison apparente, imaginez, tu abats un arbre, le fourrage aérien en saison de pluie, ou quand même le pâturage est abondant, il y a pas mal d'herbes, tout est vert. On se permet donc d'abattre, de couper des balamites pour nourrir des animaux. C'est comme si les gens se disent, ah, c'est une revanche, donc comme ils sont plus là, je fais ce qu'on m'a interdit de faire en temps normal.
Comment vous gérez la situation avec la population?
Déjà, ce qu'il faut comprendre, que la politique forestière, de manière générale, la politique environnementale est basée au Niger sur tout ce qui est participation, collaboration de tout le monde. Donc, cette gestion participative des ressources fait que même les textes de loi qui régissent tout ce qui est environnement prennent cette approche-là. Et Dieu merci, on peut dire que le Niger, quand même, on est en avance dans ce domaine-là. Donc, on ne peut que appliquer et suivre l'esprit des textes. Associer les communautés au niveau de tout ce qui est gestion de ces ressources-là. Sur ça, c'est ce qu'on est en train de mettre l'accent pour que, quand même, on arrive à diminuer la coupe abusive. Vraiment, on essaie de responsabiliser les communautés à la base pour leur dire que, au moins, chacun est responsable des arbres dans son champ.
Ce journal est à présent terminé. Au nom de toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à vous le présenter, je vous remercie de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de nos programmes. Juste après les journaux en langue nationale, vous suivrez à partir de 18h15 la deuxième partie de la coproduction des médias du Sahel de la Fondation Hirondelle, réalisée à Bobo Dioulasso sur le thème « Comment garantir la sécurité alimentaire dans les pays du Sahel, en particulier au Mali, au Burkina Faso et au Niger ».
Réécoutez les journaux et les magazines sur le 325 avec la puce Airtel gratuitement jusqu'au 5e appel, puis 15 francs par appel. Le reste des productions sur l'application Studio Kalangou disponible sur Play Store.